6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous emmenez au Sahara occidental.
Oui, le Sahara occidental, 27 ans de conflit gelé et depuis peu une pression diplomatique assez nette pour une solution rapide dans cette zone du sud du Maroc, avec possible normalisation des relations entre Rabat et Alger, des discussions multipartites à Genève en décembre, mais surtout beaucoup d'incertitudes. Bonjour Khadija Mohsen Finan.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être au téléphone avec nous depuis la Tunisie. Vous êtes enseignante et chercheuse à Paris 1, spécialiste du Maghreb évidemment. Votre dernier livre, c'est Les Dissidents du Maghreb, coécrit avec Pierre Vermeeren aux éditions Belin. Alors, cette année, il y a une accélération quand même assez étonnante du calendrier entre réintégration du Maroc dans les institutions africaines et pression, on pourrait dire, très intense de l'ONU pour relancer un dialogue. Ça, c'est inédit, non?
Alors, la réintégration du Maroc, elle date de 2017, en effet. L'accélération du calendrier, moi, je mettrais ça sur le compte d'une nouvelle méthode ou d'une nouvelle approche de la part de la nouvelle équipe de l'ONU et peut-être d'une manière de voir les choses qui est différente à Washington. Donc, les deux éléments conjugués font qu'il y a effectivement l'impression que les lignes bougent ou que on approche différemment ce conflit qui a été oublié pendant de très longues années.
Effectivement. Les lignes bougent et une des premières lignes à faire bouger, en tout cas pour Mohamed VI, c'était l'Algérie, puisqu'il a proposé le 6 novembre dernier l'ouverture des frontières, normalisation des relations maroco-algériennes. Pourquoi ? Parce que l'Algérie est toujours, disons, le meilleur atout dans un possible déblocage de la situation au Sahara occidental ?
L'importance de l'Algérie est réelle, c'est évident, mais ce n'est pas parce que le roi lui tend la main que l'Algérie va y répondre, et le roi du Maroc le sait très bien. Je pense que dans la perspective de la réunion de Genève début décembre, le roi veut donner l'impression qu'il a tout essayé, qu'il va vers l'Algérie, qu'il réintègre l'Union africaine en 2017 et que d'un autre côté, il avait déjà proposé un plan d'autonomie en 2017 aux Sahraouis. Donc il veut y aller la tête haute et il veut se distinguer aussi des autres invités de la réunion de Genève qui est organisée par l'ONU. Donc je pense que effectivement le Maroc veut se présenter différemment, mais je ne suis pas sensible au fait que, à partir d'un discours prononcé par le roi, les choses vont s'améliorer de manière drastique entre le Maroc et l'Algérie et que tout va changer au niveau de la résolution, de la recherche de résolution dans ce conflit.
Alors, volonté de se présenter la tête haute en décembre, comme vous dites, ou quand même réelle volonté d'infléchir l'Algérie, puisque il n'y a pas si longtemps, en septembre, c'était le Premier ministre marocain qui avait demandé à l'Algérie de prendre ses responsabilités politiques et historique, c'était au moment où l'ONU allait justement lancer l'appel au dialogue.
Oui, mais vous savez, le Maroc a toujours alterné entre demandes faites à l'exécutif algérien et accusations de l'Algérie. Je ne pense pas que cela soit réellement très important, parce que je pense qu'au niveau de Rabat, on sait parfaitement que la résolution de ce conflit ne viendra pas d'une entente entre le Maroc et l'Algérie. Ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu, comme le Front Polisario, et le Maroc le sait, et il y a effectivement une bonne nouvelle au niveau de la région dont il faut tenir compte. Donc la recherche d'un compromis ne se fera pas exclusivement entre Rabat et Alger.
Et précisément, ce Front Polisario, c'est lui que l'ONU a reconnu comme représentant, le représentant du peuple sahraoui, du peuple du Sahara occidental. Il s'est dit satisfait de l'annonce d'un dialogue à Genève, mais depuis, plus beaucoup de nouvelles. Dans quelle disposition est-ce qu'il peut aller à ce dialogue qui reste présenté de manière assez timide pour l'instant?
Oui, je pense que le Front Polisario ne peut pas en dire davantage. Il est content d'y aller parce que ce sera un acteur à part entière. Il est reconnu comme le deuxième belligérant de ce conflit, donc Maroc et Front Polisario. Et Genève lui offre une tribune pour revenir justement sur son combat actuel depuis 2016 en tout cas, ou depuis 2015, c'est-à-dire l'accusation faite au Maroc de spolier les ressources et les ressources naturelles du Sahara occidental en s'adressant à la Cour de justice de l'Union européenne, et par deux fois, en 2016 et en 2018, la Cour européenne de justice lui a donné raison. Donc effectivement, il y va en tant que partenaire à part entière, comme acteur incontournable, distinct de l'Algérie, et effectivement comme un acteur qui accuse le Maroc et qui a déjà obtenu gain de cause.
Acteur incontournable, acteur qui a su se rendre incontournable un peu par cette nouvelle stratégie que vous évoquez, surtout depuis 2015, on pourrait dire une offensive de harcèlement ou de dénonciation juridique du Maroc, de non-conformité avec les textes de l'ONU. Jusqu'ici, ça a été payant, pensez-vous ?
Alors, ça a été payant. Il y a eu une reconnaissance, justement, du fait que le Sahara occidental n'est pas marocain. Donc, ça, c'est un acquis pour le Front Polisario. Reste à savoir ce qu'il va en faire. Ce qu'il va en faire, ce n'est pas, vous savez, un avis de justice, ça reste un avis. Maintenant, il faut une traduction au niveau politique.
Oui, parce que pour l'instant, c'est juste la Cour de justice de l'Union européenne qui a reconnu
exactement.
Cela.
Exactement, ouais. C'est la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un argument qui est fort, mais sa traduction dans le langage politique, c'est quand même autre chose. Et c'est aussi montrer à la communauté internationale qu'il y a non-reconnaissance par l'ONU et par l'Union européenne d'une certaine manière du fait que le Sahara occidental n'est pas marocain aujourd'hui, que les Nations unies n'ont pas statué sur ce territoire. Donc effectivement, il détient un argument de force et il peut y aller tout à fait en tant qu'acteur à part entière. Ça dépend de la manière dont la communauté internationale va réagir, dont l'ONU va réagir et dont les pays de la région vont prendre en compte ces changements au niveau de la région et du comportement du Front Polisario.
Et alors, précisément, vous aviez évoqué en début d'entretien qu'il y avait un nouvel exécutif à l'ONU, hein, Guterres, et puis l'émissaire Horst Köhler, l'ancien président allemand. Il y a aussi des pressions de John Bolton et des États-Unis en général, surtout pour qu'on raccourcisse les mandats de la MINURSO, la mission de l'ONU au Sahara occidental. Est-ce que ça, c'est pas, disons, l'argument ou la pression principale qui va inciter tous les acteurs à se mettre à négocier, en particulier le Maroc, comme on le voit ?
Je pense qu'à la source des changements actuels, il y a d'abord cet élément. C'est-à-dire que les Nations Unies, avec Bolton, qui a été nommé en mars dernier, veut réellement raccourcir les missions des Nations Unies pour deux raisons. D'abord parce qu'elles coûtent cher, et la deuxième raison, c'est que en fait, en les votant, Bolton pense que le Conseil de sécurité contribue à geler les conflits, ce qui n'est pas faux. Mais l'autre élément, qui est un élément de poids, c'est que John Bolton a été conseiller de James Baker au moment où celui-ci a été l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et il garde un mauvais souvenir du fait dont les propositions de James Baker ont été acceptées par les deux parties d'ailleurs, c'est-à-dire en étant balayé d'un revers de manche en disant non, ça ne plaît pas. Alors que ces propositions de James Baker avaient été très pensées avec une période d'autonomie de 5 ans et un référendum pour consulter la population au terme de ces 5 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, John Bolton veut, à mon avis, revoir les fondamentaux de ce conflit pour aller plus vite, pour agir au niveau du Conseil de sécurité et pour gérer autrement les conflits de ce type. De ne pas continuer à ménager les susceptibilités des uns et des autres et de ne pas surtout l'enfermer dans le contentieux qui oppose Alger à Rabat de manière structurelle.
Bon, et toute dernière chose concernant les rapports du Maroc au Sahara occidental, on voit depuis cette année, voire un peu plus, hein, beaucoup de projets de développement très importants, très lourdement financés dans le Sahara occidental marocain, en même temps qui entraînent beaucoup de plaintes de la part du Polisario pour les entreprises qui s'y installent. C'est une volonté de la part du Maroc de préempter ce territoire ou de le développer selon vous ?
Alors ça, c'est très ancien, ça date de 1976 quand l'Espagne est partie et que le Maroc a choisi effectivement d'administrer ce territoire en développant sur le plan économique pour le rendre attrayant. et de prolonger aussi son administration en y organisant des élections. C'est une politique du fait accompli pour conduire la communauté internationale à accepter cet état de fait et à valider, si vous voulez, la propriété du Maroc sur le Sahara occidental. Mais je crois qu'avec les années, on voit bien que, et Hassan II le disait très régulièrement, il faut absolument, il disait, que notre titre de propriété du Sahara soit déposé à la conservation foncière des Nations Unies. Et pour ça, il faut une entente, soit un référendum, soit un compromis. Et je crois que le Maroc ne peut pas se dispenser, ne peut pas faire l'économie d'une entente entre les acteurs concernés et les acteurs intéressés.
Eh bien, à suivre en tout cas les 5-6 décembre à Genève. Merci beaucoup pour vos explications, Madame Khadija Massian Finan, enseignante et chercheuse à Paris 1. Merci.